Bruno Lambert, les Marcheurs de la Terre, un événement, un projet qui a mis 2 ans à se mettre en place. La Dame des Lacs, un film documentaire de 52 minutes, documentaire qui va être fait avec l'exploit sportif de Nelly Cars à côté de vous. Dans quel objectif ?
Alors déjà, le projet s'appelle Water Stories en fait. Le Water Stories, c'est un projet qui se décompose en 2 sous-projets. Il va y avoir dans un premier temps donc un challenge sportif qui s'appelle La Dame des Lacs, et ce sera également le titre du film documentaire de 52 minutes. Et dans un second temps, un projet qui s'appelle H2O, donc c'est un projet éducatif axé sur l'eau en Provence et l'eau dans le monde. Donc le premier volet, effectivement, La Dame des Lacs a nécessité 2 ans de préparation et d'entraînement. Le but étant d'attirer l'attention du public sur l'eau avec le challenge de Nelly Cars. Donc c'est un petit peu le concept des Marcheurs de la Terre, comme on l'a fait dans le passé en Amazonie, comme on l'a fait au pôle Nord ou dans le Sahara. Donc une fois le challenge réussi, enfin on l'espère, hein, parce que la mise à l'eau se fait demain, mais théoriquement on devrait y arriver, on en tirera donc un film de 52 minutes et qui deviendra la clé de voûte, on va dire, du futur projet éducatif H2O. À partir de là, il va falloir encore attendre à peu près un an et demi avant que le programme soit complètement bloqué. Alors quand je parle de projet éducatif, c'est un projet transmédia et multi-support, c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher un public très très large, donc le nouveau public, je dirais, qui travaille habituellement, enfin qui écoute habituellement les médias via le numérique, le web, le téléphone, et le public un peu plus traditionnel avec des expositions, itinérantes, des fiches pédagogiques, des conférences, des animations scolaires, etc., etc. Donc je le rappelle, l'objectif c'est d'arriver donc à attirer l'attention du public sur l'eau. Hein, l'eau est une matière certes recyclable, mais qui n'est pas invulnérable. Et il est temps de refaire un focus là-dessus, version Marcheurs de la Terre. Voilà.
Alors pour ça, bien sûr, il a fallu mettre en place des sponsors, des moyens financiers, des aides financières. Comment ça s'est passé ?
Alors, la face cachée de l'aventure, c'est toujours ingrat et très long. Hein, c'est vrai que quand le film est fait, quand l'exploit est fait, on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière. Donc là, pour le Water Story, c'est 2 ans de préparation. Initialement, le projet ne s'appelait pas Water Story, donc on l'a modifié au fil du temps. Et il a fallu effectivement donc, créer une société de production qui s'appelle Octopus Production, qui est en fait la société de production de films documentaires des Marcheurs de la Terre. Il a fallu démarcher auprès des médias, évidemment. Si on démarche auprès des médias, c'est aussi pour démarcher auprès des sponsors. Et ce qui fait qu'actuellement, on a effectivement un petit lot de sponsors techniques et financiers, autant pour la préparation, le conseil scientifique, que pour le financement du projet et sportif et éducatif. Donc c'est très long, très très long. Et c'est vrai que la période qui précède la mise à l'eau ou le départ, hein, ça peut être une ascension, ça peut être une traversée de jungle, généralement il y a 2 mois qui sont très 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 denses. Il faut prendre suffisamment de recul pour ne pas faire capoter le projet, parce que souvent les projets ne partent pas parce que les porteurs de projets sont épuisés, tout simplement. Et ça c'est fréquent. Voilà.
Nelly Cars, vous êtes plongeuse, éducatrice sportive et éducateur sportif. Est-ce que vous êtes prête, fin prête pour la mise à l'eau qui va se passer donc demain, à l'heure où on est à la rentrée scolaire? Vous, ça va être la rentrée, la mise à l'eau.
Oui, Odile, je pense être fin prête avec beaucoup de préparation en amont. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres de nage qui ont été effectués dans les derniers mois. Beaucoup de préparation mentale également, le travail de la musculation en salle, ça fait aussi partie des réalités. Mais il faut dire que quand on se met à l'eau pour un challenge comme ça, Bruno en parlait tout à l'heure, toute l'arrière-boutique, la phase de la cachée de l'aventure, en fait, elle a déjà été traitée. Donc finalement, il reste devant moi 100 km de nage autonome à faire. Donc c'est un gros morceau. Je pense être prête pour ça, même si il peut y avoir aussi des imprévus. Mais franchement, il y a un vrai soulagement.
Alors, c'est quand même 10 km par jour en moyenne de traverser des lacs de la région PACA et les gorges. C'est pas sans risque. Il faut étudier évidemment tous les risques. Il y a la météo, mais il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que la météo. La météo, c'est un risque parce que si la météo se dégrade, je vais me fatiguer. Et puis, on peut très bien aussi arrêter le challenge pendant quelques temps si la météo est vraiment trop mauvaise. Mais le problème principal, en fait, ce sont les dangers humains. Donc les dangers humains, notamment sur le lac de Serponçon, là où je commence, donc c'est les trois premières étapes. Il y a beaucoup de motonautisme. C'est un problème parce que les réglementations ne sont pas vraiment respectées et qu'une nageuse seule, même avec la bouée que je vais tracter, qui est quand même assez visible, une nageuse seule n'est pas forcément repérée par les utilisateurs. Donc ça va être à moi de faire attention à tout ça. Et il faut savoir que quand je nage, je suis quasiment sourde. Je fais énormément de bruit, donc je vis dans un bruit perpétuel. Et donc je ne peux compter finalement que sur le repérage que je peux faire toutes les 10 brasses à peu près, je sors la tête de l'eau. Donc ça c'est un problème. Après, sur le lac de Serponçon notamment, il y a des côtes à falaises. Donc moi je vais devoir respecter ce qu'on appelle la bande de rive, donc c'est une bande de 100 mètres à peu près au bord de la rive où sont cantonnés les nageurs. Dans cette bande de rive, normalement le motonautisme est lui aussi cantonné à une certaine réglementation, c'est-à-dire 5 km/h maximum. Mais personne ne le respecte. Donc à partir de là, je vais devoir peut-être me rapprocher des reliefs. Et là, dans ce cas-là, il y a une côte à falaise où ça peut dégringoler. Donc si la météo ne se dégrade pas, ça peut aller. Mais si elle se dégrade, ça pose problème. Alors heureusement, les prochains jours, normalement, elle ne devrait être pas mauvaise, la météo.
Quel est l'état dans lequel vous êtes? Il y a une excitation, il faut être entraîné physiquement, mais mentalement aussi. Quel est votre état à un jour de la mise à l'eau?
L'entraînement m'a fatiguée. Donc je suis dans un état relativement serein. Je suis fatiguée et très très curieuse de ce qui va venir. C'est ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que bon, quand on entreprend des projets comme ça, c'est aussi parce qu'on a le goût de l'aventure, on a le goût de l'effort. Et donc ce qui vient derrière, c'est fabuleux, c'est ce qu'on attend depuis longtemps.
Alors ça va se pratiquer en autonomie complète, vous avez donc un équipement assez sommaire finalement pour partir seul. Vous serez suivi de loin ou de près par Bruno Lambert, donc qui sera avec la caméra. Il y a des points de ralliement, comment ça va se passer concrètement?
Concrètement, la mise à l'eau se fait déjà très tôt le matin, donc à l'aube. Il faut que je sois sortie de l'eau maximum à 13h, parce qu'après, bon, il faut décharger les caméras, il y a un suivi immédiat, donc ça prend du temps. Donc pendant tout ce temps-là, je vais nager seule, en tractant une bouée où il y a mon autonomie quotidienne dedans. Donc il y a le matériel de sécurité, un moyen d'alerte s'il y a un problème, il y a des vivres, il y a des vêtements chauds. Cette bouée, bon, finalement, je peux également me reposer dessus. Mais ça reste finalement mon seul compagnon pendant toute la journée où je nage. Par contre, il y a des rendez-vous radio avec Bruno, donc, qui est chargé de la logistique et de la sécurité et du tournage. Et donc à partir de là, même si je suis seule en apparence, je ne le suis pas forcément non plus.
Donc ça va être plusieurs nages d'affilée. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez donc vous reposer, manger. Quelle va être la base de votre nourriture?
Alors d'abord, je pense qu'il faut que je parle de la base de mon rythme. Donc tous les trois quarts d'heure, je vais me contraindre en fait à m'arrêter pour boire et grignoter. On est vite pris par une forme d'excitation quand on fait un effort assez puissant et on peut oublier finalement de s'alimenter. Donc l'idée, c'est de vraiment tenir jusqu'au bout et non pas me brûler toutes mes cartouches dès le premier jour. Donc je vais m'arrêter régulièrement tous les trois quarts d'heure en bonne condition et toutes les 20 minutes en mauvaise condition, grignoter un petit peu et me poser. Après, il y a 10 jours de nage d'affilée. Donc en conditions idéales, c'est toujours pareil, parce que si la météo se dégrade ou s'il y a des imprévus, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Sur ces 10 jours de nage d'affilée, bon, nous on a annoncé 100 km, c'est une moyenne, mais il peut y en avoir un petit peu moins comme il peut y en avoir un petit peu plus. Ça dépendra de tout ce qu'il va être rencontré chaque jour. Et sur ces 10 jours-là, il va falloir tenir en restant non pas à minima de mes capacités, mais dans une belle moyenne. L'idée, c'est de vraiment pas me fatiguer plus que ça, de manière à rester lucide chaque jour.
Donc il va y avoir un suivi aussi médical. Quand vous allez, le rythme, quand vous allez revenir sur Terre, après avoir nagé vos 10 ou 12 ou 14 kilomètres, quel va être le programme, la sieste obligatoire?
Un peu de repos obligatoire, oui. Après, bon, pour le suivi médical, donc, je rebondis dessus. Il y a eu donc effectivement des tests d'effort auprès du centre médico-sportif des Alpes d'Haute-Provence, donc à Digne-les-Bains. Donc, au niveau des tests d'effort, bon, c'est très intéressant comme rencontre d'avoir des médecins dont c'est vraiment le travail finalement qui vous certifie que vous êtes aussi apte à faire la chose. Ça, c'est vraiment important. Au niveau du rythme quotidien, il va falloir effectivement que je me repose. Mais autant la nuit est faite pour dormir, autant que chaque après-midi, il y a quand même une contrainte de travail qui est constante. Donc chaque jour, il va falloir travailler également en dehors de la nage. Ça fait partie du pack de ce défi. Et donc je ne serai pas toute seule là-dedans.
Alors, dans cette grande aventure, vous êtes essentiellement deux. Est-ce qu'il y aura d'autres aides possibles ? Parce que c'est quand même une sacrée aventure.
Oui, en fait, on va dire que le noyau dur, c'est deux personnes. Par contre, le projet a commencé il y a déjà 2 ans, hein, on vous l'a dit. Donc, il y a pas mal d'images additionnelles qui ont été faites. Et il y a différents intervenants, donc des bénévoles, des salariés, ça peut arriver, des copains qui interviennent pour faire des images, pour porter du matériel, pour aider Nelly, etc. etc. Donc effectivement, on a été aidé sur la partie préparation. Lors du challenge, je pense qu'il va y avoir 2-3 coups de main, pas plus, mais pas que je n'en veux pas plus, tout simplement, compte tenu de la cadence journalière qui est très très soutenue. C'est-à-dire que si on prend par exemple le lac de Sainte-Croix ou le lac de Saint-Cassien, le lever va se faire entre 3 et 4 heures du matin, de façon à ce que la mise à l'eau se fasse à 6h45, on va dire 7h, parce que 7h, bon, si je prends Saint-Cassien, c'est dans 10 jours, donc les journées vont raccourcir un petit peu. Après quoi, Nelly va nager en théorie jusqu'à 13h, 13h30. Ensuite, il faut, comme le disait Nelly, recharger les batteries, traiter les images, s'occuper du suivi médiatique, s'occuper de la réparation du matériel, déjà faire quelques petits montages. Ensuite, il y a le repos physique, il y a le repos psychologique, donc il y a des relaxations à respecter qui sont très très importantes. À savoir que ça se fait dans des conditions idéales, hein, mais si Nelly subit quelques handicaps au niveau de la santé, on peut aussi décaler une étape d'une ou deux journées, hein, comme s'il y avait une très très mauvaise météo. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les lacs ne sont pas, toutes les berges ne sont pas accessibles. Si par exemple, là, aujourd'hui, on est sur Savine, le lac de Serponçon, Nelly va le suivre en rive gauche, hein, c'est-à-dire elle va bifurquer, tourner après sur l'Ubaye. Les deux premières étapes sont des côtes qui sont relativement raides avec très peu d'accès, sauf l'étape de demain matin, où là, il y a des zones, il y a des points d'accès, il y a des rampes de mise à l'eau, des campings, des choses comme ça. Après quoi, c'est très très raide. Ce qui fait que pour être suivi, il faut que j'ai quelqu'un qui soit capable de galoper dans la pente boisée avec du matériel à ne pas casser, etc., etc. Et pour le coup, je préfère bénéficier de mon expérience d'explorateur, on va dire tout terrain, et faire intervenir les gens uniquement sur des zones faciles. Moi, ça me repose un petit peu. Mais c'est volontaire.
Donc c'est un défi qui demande de toute façon une grande confiance en l'un et en l'autre. Et il faut assurer des deux côtés.
Absolument. Absolument. Bon, c'est peut-être plus simple pour moi d'avoir une grande confiance à un explorateur qui a énormément de bouteilles. Moi, je pars vraiment très, très confiante de ce côté-là.
On en avait déjà parlé dans une de nos émissions. Vous pouvez aussi faire des rencontres intéressantes au niveau des animaux marins. Enfin.
Ah ben, je l'espère bien. Quand on nage beaucoup, généralement, c'est qu'on aime bien l'eau et c'est que généralement qu'on aime bien ce qu'il y a dessous. Bon, moi, je nage pas en piscine, je nage uniquement en milieu naturel. Donc, c'est parce que je suis aussi fascinée par toutes les rencontres que je peux faire. Alors, la dernière émission, je me rappelle, je vous avais parlé d'un essaim d'abeilles que j'avais croisé sur ma bouée. Dans d'autres entraînements, j'ai croisé également des gros poissons, des petites grenouilles. J'ai vu des choses assez fabuleuses comme des libellules qui sont capables d'aller pondre sous l'eau. C'est des choses très rares, très très rares. Donc sur les grands lacs comme Serponçon ou Sainte-Croix, on ne voit pas grand-chose. On fait peu de rencontres. Enfin, on en fait, mais on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ils sont souvent agités. Mais sur des zones comme les gorges, notamment les gorges de Baudinard, Artignosc, alors là, c'est assez fabuleux parce qu'on se retrouve dans un monde qui peut être apparenté à un aquarium tropical. Il y a des grands herbiers avec énormément de poissons. Et il y a vraiment un grand contraste entre la surface de l'eau, ce monde qui est à la surface où finalement il fait chaud, où il y a des oiseaux, où il peut y avoir des pédalos, des touristes, et sous l'eau où finalement il fait très froid, surtout dans les gorges. Où le monde, c'est un monde qui n'est pas vraiment silencieux, mais qui est complètement différent. Et c'est assez intéressant. Je me retrouve entre deux mondes.
Quel sera votre garde-fou, puisque vous parliez d'un effet un peu hypnotique entre le fait de ne pas trop entendre avec la cagoule et puis de ne pas voir très loin, plus la fatigue. Comment vous allez vous sortir de... Il faut avoir quelque chose pour pas être happé.
Je me passe de la musique en boucle dans ma tête. Donc de temps en temps, je change de cassette en fait, ou de CD. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est vraiment intéressant parce que selon le type d'effort, telle musique y est appropriée. Donc c'est vraiment des musiques dans ma tête. Hein. Je n'ai pas d'MP3 étanche dans les oreilles. Hein. Après, en garde-fou beaucoup plus, pas concret, parce que l'autre méthode est très concrète, mais j'ai tout simplement une montre. Donc il y a la contrainte de devoir s'arrêter pour grignoter et boire, et qui me fait sortir la tête de l'eau. Et c'est une manière un petit peu de décrocher de ce mouvement hypnotique aussi.
Alors juste aussi pour le question, vous me parliez que vous aviez comme projet de grossir, de prendre du poids parce que vous allez fondre à vitesse grand V avec ces kilomètres de nage et vous n'avez pas pu prendre tous ces kilos nécessaires. Ça veut dire que dans quel état vous allez vous trouver ?
D'abord, j'ai réussi à prendre quelques kilos, il ne faut pas croire. Donc j'ai réussi à grossir un petit peu. Après, concrètement, l'alimentation que je vais avoir au quotidien pendant la nage, bon, elle est constituée vraiment d'aliments énergétiques qui vont agir vraiment directement. Et puis, la fatigue va venir, c'est évident. Je vais rencontrer de l'eau froide, c'est évident. Donc, je vais maigrir. Mais je pense que si la cadence qui va être respectée quotidiennement est alimentée aussi avec un état d'esprit où il y a beaucoup de sérénité finalement, et un travail de relaxation en amont chaque soir, je pense que je peux minimiser les dégâts aussi. Après, oui, je vais fondre, c'est évident.
Donc on va vous suivre, Fréquence Mistral, chaque soir. On va donc être en lien avec vous pour savoir votre journée, les anecdotes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc aujourd'hui ?
Bonne chance, je ne sais pas. Moi, j'aurais un souhait à émettre pour le coup. Oui. Ce serait plutôt mon tour. Cette aventure, elle est faite pour attirer l'attention du public sur l'eau. On l'oublie souvent, on va focaliser sur la nageuse, sur les marcheurs de la terre. Moi, j'aurais un souhait à émettre, c'est que chacun, à sa manière, puisse penser à l'eau. Pourquoi elle est là ? Pourquoi on s'en sert ? Comment on s'en sert ? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour elle ou contre elle ? L'eau tout court, quoi. L'eau en tant qu'élément et en tant que ressource.
Bruno ?
Je crois que Nelly a tout dit. Pour une fois, moi, je passe un petit peu de l'autre côté. Et c'est pas mal comme position. Voilà. Non, Nelly a tout dit. C'est vrai que moi, j'en remets une couche. Hein. Le but, c'est vraiment d'attirer l'attention du public sur l'eau. Hein. L'eau en Provence et l'eau dans le monde. Hein. À savoir que les petits Provençaux vivent dans un pays où, normalement, il n'y avait pas d'eau. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas d'eau. Les gens étaient habitués à vivre dans un désert. Ils avaient des puits. Et c'est vrai que maintenant, l'eau coule partout au robinet. On a l'impression que c'est tout à fait normal. Donc, c'est quand même bien de rappeler que cette eau-là, il faut aussi la dépolluer, que ça coûte cher. Donc la respecter, l'économiser. Et moi je pars d'un principe tout simple, d'ailleurs c'est le concept même des marcheurs de la terre, c'est qu'on ne peut vraiment protéger que ce que l'on aime. Donc l'objectif c'est d'arriver à faire aimer l'eau, faire aimer la nature. Voilà.
Merci
Odile.